Aujourd'hui dans Game of Earth, une vidéo complémentaire à celle sortie simultanément sur la chaîne Politikon. Une vidéo sur la pensée de Murray Bookchin. Si Politikon traite plus particulièrement de la pensée de Murray Bookchin par rapport au municipalisme libertaire, en ce qui me concerne, je m'intéresserai à savoir ce qui, dans sa pensée, le rattache indéniablement à l'écologie politique. Si vous vous posez la question, sachez que ces deux vidéos peuvent être regardées indépendamment l'une de l'autre, sans ordre particulier. Vous pouvez regarder celle-ci et vous laisser attirer par celle de Politikon par la suite ou l'inverse, comme bon vous semble. La première chose à dire sur Murray Bookchin, afin que vous le situiez d'emblée, c'est que c'est un penseur anarchiste. J'aurai l'occasion d'y revenir sur cette chaîne, mais il se trouve que la pensée anarchiste, née au XIXe siècle, a eu une influence considérable sur l'écologie politique. Ça peut paraître assez curieux étant donné ce qu'on trouve quand on lit les penseurs anarchistes du XIXe siècle, c'est-à-dire la foi en les progrès techniques pour résoudre les problématiques humaines de survie et permettre à une population toujours croissante de prospérer. On est en effet bien loin de la technophobie et du néo-malthusianisme que l'on peut retrouver chez de nombreux penseurs de l'écologie politique à la fin du XXe siècle. Mais ce que l'on trouve aussi dans la pensée anarchiste, et que l'on retrouve dans un certain nombre d'écrits d'écologie politique, c'est un fort intérêt pour les organisations sociales non modernes, qui se manifestent donc par un travail d'anthropologie et d'histoire, et une critique de la centralisation de l'État-nation moderne, et par conséquent un fort attrait pour la gestion à l'échelle locale, municipale. Dans ce tableau assez grossier que je viens de dresser de l'anarchiste en écologiste, on reconnaît très bien Bookchin. En effet, il propose un récit historique et anthropologique des catastrophes sociales et naturelles contemporaines. Il est intéressé par les bienfaits des technologies, et dans le même temps, c'est un grand promoteur des auto-organisations locales à petite échelle. La question de l'écologie est apparue chez Bookchin très tôt, dès les années 1950, et l'ensemble de ses travaux, en tant que théoricien de l'anarchisme, est tout à fait indissociable de ses travaux d'écologie politique. Justement parce qu'il s'est attelé à montrer que les relations entre humains et non-humains ont des conséquences réciproques. Bien avant la formation du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, Bookchin était préoccupé par les conséquences que pourraient avoir les rejets massifs de CO2 dans l'atmosphère, et par la pollution de manière générale. Et cette préoccupation ne l'a bien évidemment jamais quitté. Second aspect important qu'il faut aborder en parlant de la pensée de Murray Bookchin, son cadre métaphysique général, c'est-à-dire la manière dont il appréhende la nature de la réalité. Ça peut paraître abstrait et fumeux dit comme ça, mais vous allez voir que c'est important, parce que ce cadre métaphysique conditionne son approche épistémologique. Non mais pourquoi tu nous fais ça? En fait, ils vont tous fermer la vidéo là. Ce que ça veut dire, les amis, c'est qu'observer l'humanité comme un tas de particules ou bien comme un grand esprit, ça ne vous produit pas la même science de l'humanité. Donc, Bookchin tient une position naturaliste. C'est-à-dire, il considère comme primordial de penser l'humain comme un animal issu d'une certaine évolution. Pour autant, Bookchin tient, en tant qu'humaniste et rationaliste, à distinguer l'humain du reste du monde naturel. L'humain, dit-il, est un cas spécial, par sa raison, par son fonctionnement social, etc. Cela signifie, premièrement, qu'il faut se garder de tout anthropomorphisme, c'est-à-dire de toute lecture du monde naturel à travers des concepts proprement forgés pour parler des sociétés humaines, comme par exemple les notions d'esclavage, de domination, etc. Tout cela, on ne peut pas le constater dans le monde non humain, sans être en train tout simplement de projeter nos vies humaines sur des comportements qui ne le sont pas humains. Mais cela signifie également que si l'humain est un être de nature, il n'en a pas moins une place au sein de celle-ci qu'il faut caractériser. L'être humain n'a pas de nature au sens fixe. Il est un être naturel, au sens où il fait partie du grand mouvement cumulatif de l'évolution, de l'inanimé, au vivant, puis du vivant au social. C'est dans ce dernier mouvement que l'humain se distingue. Le terme important ici est cumulatif. Passer de la situation de vivant à celle de social ne provoque pas une perte du naturel chez les humains. Bookchin désigne d'ailleurs ce passage comme celui d'une première nature, le monde naturel en évolution, à une seconde nature, la société. Il s'agit d'un processus qui, malgré les ruptures qui le caractérisent, n'en est pas moins également une continuité. C'est le principe de la dialectique. Là, vous avez entendu l'un des termes les plus importants de l'histoire de la pensée occidentale, dialectique. Personnellement, à chaque fois que j'utilise ou vois utiliser ce terme, je visualise dans la seconde Hegel, Marx avec des lunettes de thug et un mammouth qui tente de faire une roulade pour se transformer en perroquet. Bon, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de dialectique et de naturalisme ? En très très gros, ce qui veut dire ne venez pas en commentaire me faire des leçons de dialectique. Je suis au courant que je vous fais la version mini-pouce accélérée, mais on ne va tout de même pas y passer 6 mois, alors que le but c'est de vous parler de Bookchin. Une philosophie dialectique, c'est une philosophie qui conçoit la réalité comme une dynamique, quelque chose en train de se développer, et non pas comme un processus statique, répétitif. Cette réalité dynamique possède une tendance à aller vers plus de complexité, plus de subjectivité, plus d'unité. Si vous voulez, on passe du « Burke » au « ça passe » pour arriver au « waouh ». Bref, la réalité progresse, et dans cette progression, il y a parfois des ruptures qui font passer d'un stade à un autre. Mais ces ruptures sont fondées sur et par ce qui précède le nouveau stade. Elles ne peuvent pas faire sans. Je sens que vous êtes perdu dans l'abstraction, je rapatrie donc la partie naturalisme. Dans le naturalisme dialectique de Bookchin, l'évolution humaine est perçue comme un processus dialectique. Et c'est pour ça qu'on parlait plus haut d'une première nature et d'une seconde nature chez l'humain. Ce que ça veut dire, c'est que pour Bookchin, la société émerge de la première nature, c'est-à-dire du monde naturel en évolution, n'aurait pu exister sans elle et est formée à partir d'elle. Mais elle n'est plus elle. On est passé d'un état à un autre. Et si le second état dépend du premier, il ne peut pas y être réduit. Cette dynamique de la dialectique se retrouve au sein de la seconde nature. C'est ce que nous allons voir à présent. Mais notez bien au passage que, par conséquent, à partir du moment où on est dans la seconde nature, les comportements humains ne sauraient, pour Bookchin, être compris comme de simples effets de la première nature. C'est-à-dire, par exemple, ramenés à l'expression de leur génome, etc. C'est donc pour cela que Bookchin n'utilise pas la sociobiologie pour fonder ses thèses, mais l'histoire et l'anthropologie. Tout ce qu'il se passe sous le régime de la seconde nature aurait pu ne pas être, est contingent et par conséquent modifiable. Dans son texte « Écologie et pensée révolutionnaire », Bookchin mentionne la désignation de l'être humain comme étant, je cite, « un parasite à pouvoir de destruction très élevé qui menace d'annihiler son hôte, à savoir le monde naturel ». Fin de citation. Une certaine partie de l'écologie politique, en effet, considère que le problème écologique, c'est tout simplement l'existence même de l'être humain. Pour Bookchin, la conception de l'humain comme un parasite nocif est problématique, au sens où, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas bien avancé, sauf bien sûr à être profondément misanthrope et à en tirer des conséquences peu désirables. Il faut donc, pour lui, se demander quelle est la rupture d'équilibre qui a fait de l'être humain un parasite destructeur. Il n'y a pas, pour lui, de naturalité de la nocivité de l'existence humaine. Elle est advenue dans l'histoire et aurait bien pu ne pas être si les choses s'étaient passées autrement. Pour répondre à la question qu'il pose, Murray Bookchin fait donc, nous l'avons dit en début de cette vidéo, il fait appel à l'histoire. Alors on peut bien sûr se questionner sur la scientificité, sur la rigueur de cet appel à l'histoire, mais on va laisser ça de côté pour le moment, puisque c'est une question à part entière dans l'écologie politique et peut-être même dans la pensée politique de manière plus générale. Disons que, dans l'écologie politique du moins, Bookchin n'est absolument pas le seul à faire appel à l'histoire pour expliquer ce pourquoi nous en sommes où nous en sommes en termes de destruction de la nature. Si vous avez par exemple regardé ma vidéo sur l'écoféminisme, ou si vous avez regardé ma vidéo sur et aussi avec Pierre Charbonnier, vous savez peut-être de quoi je parle. Donc évidemment, si les récits historiques sur pourquoi la crise écologique vous intéressent, vous pouvez déjà vous tourner vers ces vidéos. Pour Bookchin, le rapport destructeur que les humains ont avec la nature est une conséquence directe de la destruction d'un ordre social premier, qu'il appelle la société écologique. Cette société écologique, que l'on peut pour lui retrouver également dans certaines populations non modernes, ne connaissait pas, dit Bookchin, de rapport de domination. La société écologique n'a pas d'organisation hiérarchique. L'idée même de hiérarchie n'y existait pas, les humains se trouvant alors dans la situation d'une égalité primordiale. Il n'y avait donc pas de domination de l'humain par l'humain, et pas non plus de domination de la nature par l'humain. Car il faut bien noter que, pour Bookchin, la domination de la nature est la conséquence de la domination de l'humain par l'humain, et non pas l'inverse. Dans son ouvrage « L'écologie de la liberté », Bookchin retrace les grands traits de ce qu'il considère comme une sortie de cette situation d'égalité primordiale qui caractérise la société écologique, sortie par l'émergence progressive de la hiérarchie dans les sociétés humaines. Par hiérarchie, il entend toutes les formes de domination permettant l'exploitation. Agisme, sexisme, racisme, classisme, intellectualisme, etc. Puis, cette hiérarchie entre humains a été appliquée aux non-humains. C'est ainsi que s'est développée une société traitant la première nature, le monde naturel, comme un puits de ressources à exploiter. Cette lente et progressive hiérarchisation connaît deux points culminants notables. La hiérarchie par le processus de centralisation de l'État-nation moderne, et la hiérarchisation par le déploiement du capitalisme, qui est à l'origine de la production des classes sociales. Stade final de l'atomisation de la société écologique, le capitalisme culmine dans le consumérisme du XXe siècle. Dans l'individualisme qu'il a produit, pétri de compétition économique acharnée, devenu but premier de toute activité humaine. Il a ainsi réduit à néant, dit l'auteur, les relations d'interdépendance et d'égalité dans la différence qui caractérisaient le fonctionnement de la société écologique. Les conséquences de l'émergence de la hiérarchie dans les sociétés humaines, puis leur application à la première nature, affirme Bookchin, sont dramatiques, dévastatrices. Tout cela se traduit non seulement par la course au profit menée par les industriels, mais également par le mépris profond du bien public exprimé par les entreprises bourgeoises. Humains comme nature sont considérés comme des ressources exploitables du fait de la hiérarchisation des sociétés. Et donc, ça fait des problèmes sociaux et écologiques. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'accumulation de richesses et la lutte contre la concurrence pour y arriver devient le but unique de toute entreprise humaine. La rationalité humaine s'engage alors tout entière dans une simplification et une uniformisation tant des relations entre humains que des relations entre humains et monde naturel, ou première nature si vous préférez. Tout cela va en réalité d'un seul tenant. Certes, dit Bookchin, la hiérarchisation des sociétés est ce qui semble avoir permis, historiquement, les progrès humains qui nous permettent aujourd'hui de vivre, et pas seulement de survivre. Cependant, affirme-t-il, les formes hiérarchiques qui ont alimenté pendant si longtemps le développement d'une société basée sur la propriété et qui ont facilité ses progrès, État, cité, économie centralisée, bureaucratie, famille patriarcale, ordination du marché, ont maintenant atteint leurs limites historiques. Elles ont épuisé leurs fonctions sociales en tant que moyen stabilisateur. Si nous avons eu un jour besoin de la hiérarchie, pour l'auteur, ce temps est désormais révolu. Et même, nous allons le voir pour Bookchin, la hiérarchie est une menace très importante envers la survie humaine. La hiérarchie est donc foncièrement néfaste et par conséquent, une simple modification des relations au sein de la hiérarchie ne suffira pas. Il faudra se débarrasser complètement de toutes les formes de hiérarchie dont nous avons fait la liste non exhaustive plus haut. Donc non seulement il faudra laisser tomber le capitalisme et l'État, mais aussi tout le reste, à savoir entre autres le racisme, le sexisme, le népotisme, l'agisme, le validisme, l'homophobie, bref, j'en passe. Je reviens sur la notion de simplification. État et capitalisme, je le disais, ont mené pour Bookchin les sociétés à l'uniformisation par l'application d'une forte hiérarchisation. Pour organiser la gestion des vies de leurs citoyens, les États fortement centralisés ont agencé les vies humaines et les espaces nationaux en masse, tous sur le même modèle. Moins il y a de différences, plus c'est facile d'appliquer une même recette. Et si tu as le malheur de ne pas rentrer dans le moule, on te rabote les côtés ou on ignore ton existence. C'est plus facile que d'adapter le système pour te prendre en charge, toi aussi. J'ai l'air de ne parler que des humains, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ça vaut aussi pour les non-humains, notamment dans le cadre de la gestion nationale des territoires. Pensez par exemple à l'agriculture intensive, à la sélection de certaines semences et à l'interdiction de la culture d'un grand nombre d'autres semences jugées moins productives ou plus fragiles. Tout cela participe à l'uniformisation du végétal. Et ça s'applique, bien évidemment, à l'industrie qui est devenue l'élevage durant la seconde moitié du XXe siècle. Le capitalisme, également, a favorisé ce mouvement d'uniformisation et de massification de la production, de même que l'uniformisation des désirs des individus. Dans tout cela, Bookchin voit rien de moins qu'une tendance au totalitarisme, à la centralisation et à l'embrigadement. Tout cela n'est déjà pas très joyeux, mais si l'on suit encore l'auteur, on arrive sur l'écologie en tant que science des écosystèmes et les acquis qu'elle propose à la lecture de l'écologie politique. On y trouve, dit Bookchin, l'affirmation selon laquelle l'équilibre d'un écosystème, et donc sa stabilité, sa pérennité, la stabilité d'un écosystème s'obtient exactement par l'inverse de la simplification, de l'homogénéisation. Pour un système équilibré, il faut de la variation organique, de la diversité, de la complexité. Alors évidemment, la forme que prennent l'agriculture et l'élevage en régime étatico-capitaliste, ce sont de dangereux pas faits en direction de la destruction des écosystèmes. Je pense qu'on est un certain nombre ici à trouver qu'on n'a pas trop envie de vivre dans une société aux tendances totalitaires, et qu'on n'a pas non plus trop envie de poursuivre allègrement la destruction des écosystèmes qui permettent la pérennité de la vie humaine. Bookchin nous dit, on vient de le voir, que les deux problématiques sont intrinsèquement liées. État centralisateur et capitalisme non seulement uniformisent les vies humaines en les dirigeant, mais pour ce faire uniformisent, simplifient à l'extrême le vivant. Par conséquent, on voit bien arriver là l'idée selon laquelle la vie politique, économique, sociale doit complètement changer, tant pour la liberté des individus que pour leur simple et pure survie. Si vous avez vu préalablement la vidéo de Politikon sur le municipalisme libertaire, alors vous commencez déjà à bien voir vers où Bookchin veut nous emmener. Il nous emmène bien sûr vers la décentralisation. Une décentralisation qui concerne autant la production et les rapports avec la première nature que la vie démocratique. Je cite ici « Au-delà de la rareté », si l'humanité veut mettre en application les principes essentiels à la gestion d'un écosystème, l'unité de base de la vie commune dans la société doit elle-même devenir un écosystème, une éco-communauté. Elle doit aussi devenir diversifiée, souple et équilibrée. Fin de citation. On voit bien là l'ambition de produire des organisations sociales en concordance avec les écosystèmes. À chaque écosystème, son éco-communauté. Chaque éco-communauté devant se voir appliquer une gestion écologique. Bookchin transforme ce qui pourrait rester une simple analogie monde naturel, monde humain, en principe commun. Plus de diversité et plus de complexité égale plus de stabilité. Que cela soit entre humains dans le monde naturel ou entre humains et monde naturel. Exit donc l'uniformisation, ce qui implique de se débarrasser tant de l'État-nation moderne que du capitalisme, afin que les individus puissent librement se développer, d'autant de manière différente que possible. Une des conséquences de cette liberté permettant la diversité est bien évidemment, pour Bookchin, que cette diversité humaine se retrouvera dans les modes de production et les modes de vie, alignant ainsi diversité sociale et diversité du monde naturel. Puisqu'il va sans dire que, pour continuer à vivre, les êtres humains ne peuvent cesser d'avoir des relations avec le monde naturel. Mais, il ajoute immédiatement, je cite, « Ce concept de communauté n'est en aucune façon motivé exclusivement par le besoin d'un équilibre durable entre l'être humain et le monde naturel. Il est aussi en accord avec l'idéal utopique d'un être équilibré, d'un individu dont les sensibilités, la gamme large d'expériences et le style de vie sont nourris par un grand nombre de stimuli, par une diversité d'activités et par une échelle sociale qui demeure en permanence dans les limites de la compréhension de tout être humain. » Fin de citation. Le but de cette recomposition sociale, en éco-communauté, n'a pas pour seul but un genre de bien-être du monde naturel, qui devrait primer sur le bien-être humain. Bookchin est très critique vis-à-vis de ce genre de thèse. On le connaît notamment pour ses attaques acerbes envers la Deep Ecology et l'association Earth First. Les éco-communautés sont donc aussi, et peut-être même avant tout, conçues par Bookchin comme le lieu privilégié d'une existence humaine riche, diverse, libre. Pas question de proposer des éco-communautés dont les membres seraient tenus de prendre, ad vitam aeternam, un rôle imposé selon les qualités que la communauté lui reconnaît. Pas de république à la Platon, si vous voulez, où le bonheur de chaque individu advient dans sa participation au tout de la cité. Il convient, dit-il, que les éco-communautés soient caractérisées par la souplesse de leur diversité, afin précisément d'éviter la rigidité, vite brisée, des sociétés homogénéisées par l'État et le capitalisme. Concrètement, dans les éco-communautés telles que les conçoit Bookchin, les relations des êtres humains avec le monde naturel, nous le disions, se poursuivent nécessairement. Pas question, comme avec la Deep Ecology, de se retrouver à sanctuariser des espaces sauvages pour les préserver de toute intervention humaine. C'est la nature des interventions humaines qui doit changer. Il faut passer de la brutale homogénéisation aux soins et à l'attention portée à la diversité. Puisqu'à chaque éco-communauté son écosystème, chaque écosystème devrait faire l'objet d'une appréhension qui lui soit propre, qui soit capable de noter ses caractéristiques. C'est à partir de ce savoir complexe et précis qu'il conviendrait de développer des relations éco-communauté-écosystème. Vous aurez peut-être pensé, en entendant cette description, au principe de la permaculture, développé par les deux Australiens, Holmgren et Mollison. En gros, la permaculture, ça consiste à développer une agriculture adaptée aux lieux dans lesquels elle est pratiquée. Ça a l'air simple et logique, dit comme ça, mais l'agriculture conventionnelle adapte les sols et les semences pour une production uniformisée et massive. Par conséquent, elle ne s'intéresse que très peu à savoir si telle ou telle plante peut ou ne peut pas pousser à tel ou tel endroit, puisqu'on fera en sorte qu'elle y soit installable. A l'inverse, la permaculture propose de partir d'une observation, d'une étude attentive des terres et de ce qu'elles peuvent faire avec une moindre intervention humaine, afin de minimiser l'utilisation d'intrants, les engrais, les semences modifiées, uniformisées, etc. Et de maximiser la diversité des productions, et donc du vivant, dans l'écosystème. Ce qui, on l'a vu plus haut, le rend plus stable, plus pérenne. Évidemment, ça demande de développer des connaissances locales précises et des protocoles agricoles adaptés, et c'est tout à fait incompatible avec une organisation de la production normée à l'échelle d'un territoire national, voire international. D'où l'importance d'une organisation sociale locale à l'échelle de l'écosystème. Second point important, et non des moindres pour Bookchin, la question de l'énergie et de la technologie. Si on applique le schéma qu'on vient de dire, vous comprendrez que logiquement, il ne s'agit pas de l'énergie et de la technologie, mais plutôt des énergies et des technologies. Dans ce domaine également, c'est la diversité et l'association dans cette diversité qui, pour l'auteur, sont susceptibles d'offrir la stabilité, la pérennité. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour Bookchin, du moins dans ses textes des années 60-70, le développement technologique a un potentiel libérateur très important. Pour lui, le développement technologique doit permettre la réduction drastique du temps alloué au travail. Il doit permettre que les individus soient libérés des tâches pénibles pour pouvoir consacrer leur temps à des activités de création enrichissantes. Bien sûr, au sein de la société hiérarchisée par l'État et le capitalisme, les technologies ne sont pas libératrices. Elles perpétuent un ordre inégal et permettant l'exploitation de l'humain par l'humain et du monde naturel par l'humain. Mais dans une société anarchiste organisée en éco-communauté, dans une société où la hiérarchie n'existe de nouveau plus, les technologies pourraient enfin venir jouer leur rôle libérateur. Bookchin s'intéresse, dès leur premier développement, à ce que l'on appelle les technologies vertes, ou écotechnologies, l'éolien, le solaire, etc. Évidemment, en système capitaliste, la logique de profit vient prendre toute la place. Et de fait, les technologies vertes n'ont pas été développées, sauf à partir du moment où c'est devenu trendy de le faire. Mais l'espoir que pouvait trouver notre auteur dans ces technologies résidait dans leur diversité et dans la possibilité de leur usage à l'échelle locale, peut-être plutôt régionale, à taille humaine, collectivement maîtrisable. En 1965, dans son texte « Vers une technologie libératrice », Bookchin évoque ce qu'il considère comme des éléments technologiques potentiellement développables dans le cadre d'une société écologique composée d'éco-communautés anarchistes. Je cite « Dans cet esprit, on peut prévoir l'utilisation de techniques nouvelles, actuellement encore en pleine gestation, dont beaucoup se prêteraient merveilleusement à une économie décentralisée. Je pense en particulier aux méthodes permettant d'extraire de la terre, de l'eau ou de l'air, des corps très dilués, ou même à l'état de trace, à l'énergie solaire, éolienne, hydroélectrique et géothermique, à l'utilisation de pompes à chaleur, de carburants végétaux, de bassins solaires, de convertisseurs thermoélectriques et peut-être à les réactions thermonucléaires contrôlées. » Bookchin avait donc foi en les technologies et leur développement, mais à condition bien sûr que celles-ci soient développées dans des sociétés anarchistes éco-communautaires. Pas question d'un retour à la Terre enchanteur, débarrassée des progrès techniques. Bookchin sait bien que cette version idyllique de la vie campagnarde ne porte en elle aucune vérité. Les travaux des champs sont durs et les technologies sont nécessaires à l'émancipation humaine. Sans technologie, c'est la rareté, la survie, les travaux pénibles et l'usure rapide des corps. Si la hiérarchisation a apporté la technologie et créé la possibilité pour les humains de s'émanciper des durs labeurs et des aléas du monde naturel, c'est de l'eau du bain dont il faut se débarrasser, pas du bébé. Des technologies diversifiées et à taille humaine pour une autogestion collective à petite échelle dans le but de rendre pérenne la vie de tous. Voilà qui, pour notre auteur, est la projection d'un avenir désirable. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais comment est-ce qu'on s'y prend ? Il ne vous aura pas échappé ici que nous sommes, avec Bookchin, dans la pure tradition des utopies sociales. Utopie, dans ce cadre-là, n'est pas censée être un terme péjoratif, désignant une idée un peu excentrique et doucement naïve. L'utopie, pour Bookchin, c'est, je cite, « l'examen de notre époque sous l'angle de ses potentialités ». Fin de citation. On regarde ce que l'on vit à présent et comment tout cela pourrait se transformer en autre chose de plus désirable. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout prévoir et anticiper, mais que la projection et l'imagination d'autres réalités sociales est un moteur pour le changement. Et la révolution, Gérard, c'est pour quand, me direz-vous ? Bookchin vous répondrait « La révolution, sans transition, c'est toi ». Il faut dire que notre auteur est un peu fâché par les débats des marxistes sur la transition d'une société à une autre. Pour lui, la révolution est spontanée. Elle advient lorsque les individus décident de changer de vie et de refuser l'ordre hiérarchique par des actes auto-libérateurs. De tels actes, l'auteur en reconnaît dans les mouvements hippies et dans tous les styles de vie marginaux qui se développent sous la forme de contestation de l'autorité étatique et capitaliste. Plus contemporain, on pourrait penser aux ZAD ou bien au Rojava, dont les acteurs ont été inspirés par les travaux de Bookchin et ont été en contact avec lui peu avant son décès. Pas question pour lui de penser une libération des masses ou des classes. La libération est en premier lieu une libération personnelle de la vie quotidienne dans la réalisation de soi, une auto-libération, comme dit précédemment. Autrement, il ne s'agit pas d'une libération, mais d'un simple changement dans l'organisation de la hiérarchie. Mais la libération ne s'arrête pas à soi. Elle doit en partir, certes, mais la trajectoire ne fait alors que commencer pour passer à la constitution de collectifs et de communautés dont le but est la destruction du pouvoir, de la propriété, de la hiérarchie et de l'exploitation. Bookchin compte donc sur une révolution via l'autogestion qui se disséminerait au gré des aspirations personnelles à la libération et des projets collectifs en découlant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a une certaine importance de la pensée anarchiste pour le développement de l'écologie politique, donc j'aurai l'occasion d'y revenir avec d'autres penseurs que Murray Bookchin. Et évidemment, même pour Murray Bookchin, j'ai dû, comme d'habitude, simplifier et couper, et peut-être que ça peut vous donner l'impression que Bookchin est un penseur isolé. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bookchin a abondamment commenté les débats du marxisme et du socialisme de manière générale. De même, ses travaux s'appuient sur une culture philosophique plus traditionnelle, qu'il aurait fallu, pour être précis, relever et commenter. Il est très loin d'être un rêveur solitaire. Par ailleurs, je ne vous ai pas expliqué le fonctionnement qu'il envisageait pour son municipalisme libertaire. C'est un manque important, et pour le combler, je vous renvoie à la vidéo de Politikon dont je vous parlais en introduction, puisque c'est précisément cela dont il y est question. N'est-ce pas qu'elle ait bien pensé cette collaboration ? Vous trouverez peut-être, malgré mon avertissement et ma définition de l'utopie que je vous ai faite au cours de cette vidéo, que la pensée de Murray Bookchin est un peu naïve et surtout peut-être un peu légère avec ses connaissances en anthropologie et en histoire. C'est pas moi qui vais vous empêcher de penser ça, mais il me semble qu'on peut lui faire la grâce, même si c'est une grâce qu'il n'a pas toujours faite à toutes les pensées d'écologie politique, toi-même tu sais l'écoféminisme, il me semble donc qu'on peut lui faire la grâce de le lire attentivement et d'en tirer le meilleur en termes de critique. Critique de l'État, critique des modes de production, critique de la hiérarchie, critique du rôle des sciences, etc. Beaucoup de ces textes sont disponibles gratuitement en ligne, et je dirais que par ailleurs, ils sont assez faciles d'accès, assez faciles à lire, donc si tout cela vous intéresse et que vous voulez creuser, foncez en description voir la bibliographie. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aller faire une petite visite du côté de la chaîne Politikon et de la vidéo qu'il a réalisée sur le municipalisme libertaire chez Bookchin. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.